manifester, vous les entendrez. Et puis 3 semaines de révolte en Iran, des manifestants étouffés par la répression du régime. Ce n'est pas le premier soulèvement des Iraniens contre les mollahs. Certains d'entre eux ont dû s'exiler, comme Nazila, son témoignage bouleversant dans un instant. Mais d'abord, la tendance météo, Estelle Lafont.
Eh bien aujourd'hui, je vous apprends rien, auditeurs du Sud-Est. Hein, la pluie est là et ne bouge pas. Partout ailleurs, c'est calme avec une dominante de gris. On en parle juste après le journal.
Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, présenté par Pierre Vesque. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Sébastien Lecornu annonce de nouvelles mesures pour doter la France d'un budget et d'éviter la censure. Le Premier ministre a pris la parole hier soir sur le perron de Matignon pour annoncer la hausse de la prime d'activité. 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, soutien aux étudiants avec les repas universitaires à 1 euro. Mayalène Trémollet, ce projet de budget permettrait de réduire le déficit à 5% du PIB et surtout d'éviter au gouvernement de tomber.
Oui, s'il défend un budget équilibré permettant de réduire le déficit à moins de 5%.
Ce budget va être différent. Il est meilleur et il est, je le crois, responsable.
Concrètement, la plupart des nouvelles mesures listées par le Premier ministre sont issues des réclamations du Parti Socialiste et des Républicains. Augmentation de la prime d'activité pour 3 millions de ménages, généralisation du repas universitaire à 1 euro pour les étudiants à la demande du PS, pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu à la demande des LR. Le Premier ministre espère ainsi obtenir la garantie d'un pacte de non-censure et accuse dans le même temps la France Insoumise et le Rassemblement National d'avoir provoqué la suspension des débats à l'Assemblée.
La France Insoumise et le Rassemblement National ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc invotable.
Manière de rejeter sur les oppositions l'absence de vote à venir et le recours nécessaire au passage en force que Sébastien Lecornu voulait à tout prix éviter.
Je ressens une réelle déception, mais aussi de l'inquiétude d'avoir une partie de la classe politique préférer le blocage au travail.
Toujours est-il que le gouvernement n'a plus que 2 options à ce stade, passer par l'article 49.3 ou par les ordonnances, fait inédit sous la 5e République. Le Premier ministre n'a pour l'instant pas précisé sur laquelle il comptait s'appuyer.
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1.
Dans l'actualité également, c'est le jour J pour l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur.
Il sera signé aujourd'hui à 17h, heure française à Asunción, capitale du Paraguay. Présenté comme l'un des traités commerciaux les plus ambitieux jamais conclus par l'UE, il ouvrirait une vaste zone de libre-échange. Cette signature attendue intervient dans un climat politique et social tendu, marqué par les inquiétudes persistantes du monde agricole européen et les divisions entre États membres. La France vote contre pour protéger certains de ses agriculteurs. Jean-Luc Boujon, correspondant à Lyon, a rencontré lors d'une manifestation des éleveurs. Il reste combatif, mais vous allez l'entendre très inquiet.
Les agriculteurs ne se voilent pas la face. Cette signature aujourd'hui avec les pays du Mercosur n'est pas une bonne nouvelle. Alors à quoi bon continuer le combat? Certains comme Florent Chipier, arboriculteur à Chabanières dans le Rhône, sont un peu résignés.
Je suis très pessimiste. Il y a certaines filières qui vont disparaître à l'allure où ça va. En fait, nous on demande juste une seule chose, c'est bon bah ok, on ouvre les portes avec le Mercosur, mais laissez-nous travailler comme les autres, au moins comme nos voisins européens. Quoi.
Mais d'autres estiment que malgré la ratification du traité, rien n'est perdu, ou plutôt que tout est encore jouable. C'est le cas de Jean-Luc Perrin, éleveur de bovins et président de la FDSEA de la Loire.
On va se battre jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Et notamment, il y a la saisie de la Cour de justice européenne. Vous savez que les eurodéputés vont voter pour saisir la Cour de justice européenne ou contre. Et c'est pour ça que nous serons à Strasbourg mardi pour mettre la pression sur les eurodéputés pour qu'ils votent pour saisir la Cour de justice. Ça ne va pas forcément anéantir le Mercosur, ça va l'arrêter pendant 18 mois. Donc, on pourra continuer à se battre pour s'opposer à ce Mercosur. Comptez sur nous pour pas qu'on lâche.
L'heure est donc toujours au combat, mais également, et cela sera visible mardi, à l'Union des agriculteurs à travers l'Europe. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et on en vient à présent à ce nouveau cycle de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Emmanuel Macron l'a ouvert hier. Le président de la République affirme vouloir avancer sans passage en force, mais sans paralysie. Malgré l'absence du principal mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, rejette les accords de Bougival signés le 12 juillet dernier et qui prévoient entre autres la création d'un État calédonien au sein de la République, doté d'une nationalité propre, sans ouvrir une perspective de souveraineté pleine de l'île. Emmanuel Macron a ouvert ce nouveau dialogue pour apporter des clarifications.
Et pendant ce temps, à l'international, Donald Trump menace les pays qui contestent son plan d'acquisition du Groenland.
Allons-nous revenir à une guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires économiques? C'est la menace brandie par le président américain à tous ceux qui s'opposent à son plan de rachat de l'île. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland. Finlande pour la sécurité nationale, a déclaré le président américain lors d'une table ronde à la Maison-Blanche.
Donald Trump très présent également sur le dossier iranien.
Et beaucoup de voix s'élèvent pour que Donald Trump intervienne militairement en Iran pour chasser le régime des Mollahs à la tête du pays depuis 1979. Trois semaines que les Iraniens se soulèvent contre leurs dirigeants. Plusieurs fois au cours des dernières années, les Iraniens ont tenté de faire chuter le régime et à la suite de ces tentatives infructueuses, certains ont dû partir en exil, comme Nazila Maroufian. Elle vit en France et suit de loin l'évolution de la situation. Son témoignage au micro de Laura Legault pour Europe.
Les larmes aux yeux, Nazila Maroufian regarde défiler les rares images et vidéos des manifestations qui lui parviennent d'Iran.
Comme un cauchemar, toutes les choses que j'ai vécues, tout revient devant mes yeux.
Sa famille et ses amis sont encore en Iran. Pendant plusieurs jours, elle n'a eu aucune nouvelle d'eux. De longues heures d'attente et d'incertitude insupportable.
C'est hyper difficile quand vous devez juste attendre. Parfois, j'ai regardé les vidéos que les gens ils m'envoient sur les manifestants. Moi, je cherche ma famille, je cherche mes amis.
Une seule information lui est parvenue, mais c'est une mauvaise nouvelle. L'une de ses amies a été arrêtée par le régime.
Ils ont cassé la porte de son appartement. On n'a aucune nouvelle. Elle est où? Elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas.
Mais la jeune femme garde espoir. Son pays s'en sortira avec ou sans l'aide des États-Unis.
Coup Trump, il nous aide au pain. On va réussir un jour. On va avoir la liberté.
Même en exil, Nazila continue de se battre pour la démocratie iranienne. Et elle espère pouvoir un jour retourner vivre libre en Iran.
Laura Legault pour Europe 1.
Et on continue à parler de l'Iran. Ce sera 8h12 avec le deuxième invité d'Europe 1 Matin Week-end, Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de l'Iran, sera avec nous en direct et en studio. La météo à 8h06 sur Europe 1. Ici, on fait court ce matin. Estelle, c'est gris plus ou moins partout, et il pleut beaucoup dans le sud-est.
Oui, tout à fait, la zone Paquin, le tout saupoudré de vent, un vent d'est à 60 km/h. Je précise d'ailleurs que le département de l'Hérault sera placé dès 18h en vigilance orange, pluie, inondation. Sur le reste de l'Hexagone, vous l'avez dit, le ciel est plus ou moins bouché, c'est plus sombre sur la moitié sud que sur la moitié nord. On a cependant quelques exceptions le long des côtes, Atlantique et de la Manche, avec des trouées de soleil ce matin assez franches sur le nord d'ailleurs, et puis une petite bande de chanceux qui se trouve le long de la frontière allemande avec une belle matinée ensoleillée.
Le tout dans une ambiance toujours assez douce.
Oui, on a 2 à 6 degrés en général sur le territoire et plutôt 10 à 12 degrés en Méditerranée.
Merci beaucoup Estelle. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va revenir sur la révolte iranienne après la répression sanglante de la République islamique d'Iran. Le peuple iranien va-t-il tenir? Je reçois dans quelques instants Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de l'Iran. A tout de suite.
Europe 1. Skoda.
On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement, ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4 000 € d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end. Skoda. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
On vous ramène.
Exclu mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaires sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs?
Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins. Qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez.
Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essentiel SCE 65,9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à data novembre 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Cuir Center.
Et si vous commenciez l'année en faisant de confortables économies? Alors n'attendez plus. Pendant les soldes Cuir Center, profitez de réductions exceptionnelles sur une large sélection de canapés en cuir et bien sûr en tissu. En plus, chez Cuir Center, tous les canapés soldés sont disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Date légale sur cuircenter.com.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leap Motor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Cette série, des 139 euros par mois et sans apport. Pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leap Motor, lancez-vous.
LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360 euros déduite pour une T03 9 heures option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Pensez à covoiturer.
Europe 1 Matin Weekend.
Dans moins d'une minute, Europe 1 Matin Weekend revient avec le deuxième invité de cette matinale, Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. A tout de suite.
Europe 1.
Grand frais.
Oui, c'est l'architecte. Dites pour les plans de votre maison, je peux pas. J'ai Grand Frais, ils ont des oranges à jus tellement sucrées, je peux pas louper ça. C'est mon meilleur ami qui va faire vos plans. Il fait de la BD, donc il a un bon coup de crayon. Hein.
Grand Frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les oranges à jus sont à 90 centimes le kilo. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais, le meilleur marché.
Soit 2,70€ le filet de 3 kilos. Calibre 6-7, variété Naveline, catégorie 1, origine Espagne, traité après récolte.
Peugeot. Impossible de résister au leader de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 euros par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Matin Weekend. 6h-9h, Alexis de la Fléchère.
Et à 8h12 sur Europe 1, Alexis de la Fléchère, vous recevez Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient.
Bonjour Emmanuel Razavi.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Depuis près de 3 semaines, le peuple iranien se révolte, de façon d'ailleurs assez inédite. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue dans tout le pays, jusque dans des villes très symboliques du régime, Mashhad hein, notamment, la ville d'Ali Khamenei. La réponse de la République islamique a été d'une violence extrême, des tirs sur la population, des milliers de morts, des images de corps au sol, des familles en pleurs et des coupures d'Internet pour cacher la répression. Et aujourd'hui, on est un peu, Emmanuel Razavi, je trouve, dans un moment assez étrange parce qu'on a moins d'images qui nous parviennent, on a moins d'informations. Les États-Unis n'interviennent pas et le régime semble gagner du temps après ce terrible bain de sang. Où on est ce matin? On peut se poser la question, la situation aujourd'hui, est-ce que la révolte est-elle vraiment écrasée et est-ce qu'elle peut repartir?
Alors, la révolte aujourd'hui, je pense pas qu'elle soit écrasée, parce qu'en réalité, le mouvement de révolte, il s'inscrit dans un temps long qui a commencé il y a plusieurs années. On se souvient en 2009, en fait, de la vague verte. Mais des manifestations contre le régime, il y en a eu quasiment dès l'avènement, en fait, du régime.
Oui.
Simplement, il y a une rupture générationnelle aujourd'hui en Iran. La moyenne d'âge, c'est un pays de 90 millions d'habitants, la moyenne d'âge est de 32 ans. La majeure partie des Iraniens sont jeunes, ont moins de 40 ans, ne se reconnaissent pas du tout, en fait, dans la République islamique d'Iran, dans le régime, en fait, religieux. Je voudrais citer un chiffre, si vous permettez. Oui. Il y a une fondation qui s'appelle la fondation Gaman, qui analyse les tendances en Iran. Cette fondation a fait une... Elle est distribuée, en fait, elle est relayée par la Fondapol, la très sérieuse Fondapol en France. Au mois de juillet dernier, elle a publié, en fait, une étude qui explique que 81% des Iraniens rejettent la notion de république islamique. Ils ne veulent plus être dirigés, les Iraniens, par des religieux. Ils ont vu le résultat en matière de répression, vous l'avez rappelé, mais ils ont vu le résultat sur le plan économique. C'est un régime failli, il n'y a plus d'économie en Iran. Si, il y a une économie parallèle.
Oui. C'est ce que vous dites justement sur la répression, pour avoir vraiment le fond de la pensée sur le peuple iranien. Iraj Mezdari, un écrivain iranien, ancien prisonnier politique, était l'invité de Dimitri Pavlenko et il parlait, lui, quasiment de au moins 12 000 personnes tuées par le régime, par la République islamique d'Iran. C'est tellement atroce, tellement terrible qu'on se demande comment le peuple iranien va à nouveau, ces prochains jours, pouvoir se dresser contre le régime des mollahs.
Une chose est certaine, c'est qu'il y a une partie des gens qui ne descendront plus pour manifester, et d'autres, on le voit déjà depuis hier. Parce qu'on arrive, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est intéressant, on a très très peu, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations, en fait, depuis deux ou trois jours.
Sur
depuis
les chiffres.
Il y a eu le blackout, d'ailleurs, depuis quelques jours. Voilà, sur les chiffres. Il y a une réalité, c'est qu'on voit qu'il y en a une partie qui se disent, en fait, on est lâché une fois de plus par l'Occident. Parce que personne ne les soutient. On les encourage à aller dans la rue, on les encourage à se révolter, mais clairement, on ne les soutient pas. Et évidemment, il y a une autre partie qui se radicalise. Et je disais hier à des confrères, il faut faire très attention à une chose, parce que il y a des oppositions démocratiques et laïques au sein, en fait, comment dire, des résistants, de la résistance iranienne. Ces mouvements d'opposition, ils sont prêts à prendre le relais. Il faudrait leur faire confiance. Or, on ne le fait pas. Et ces mouvements d'opposition seraient, je dirais, la promesse sur un avenir, mais surtout peut-être la promesse que le pays ne sombre pas dans le chaos. Or là, on fait tout pour que le pays sombre dans le chaos, que des gens se radicalisent et... peut-être que des gens aussi fuient, parce qu'on va aller vers des masses de migration qu'on ne maîtrisera pas. Vous aurez aussi beaucoup d'Iraniens, si on n'intervient pas, qui vont essayer de s'échapper du pays et qui arriveront en Europe. Alors en général, l'immigration iranienne, c'est une bonne immigration, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui comment dire, s'insèrent dans nos sociétés occidentales. Mais n'empêche qu'on fait tout à l'envers.
Vous dites qu'ils ne se sentent pas forcément soutenus par l'Occident. Pourquoi Donald Trump n'intervient pas? Pourquoi est-il si frileux au début? Il était assez clair. Il a dit s'il y a des massacres comme on les voit en ce moment à la télévision, on interviendra. Mais récemment, il est revenu en disant justement ça s'est calmé, comme s'il y avait eu un accord avec la République islamique d'Iran.
Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs États qui font pression en fait sur Donald Trump pour qu'il n'y ait pas d'intervention militaire américaine. Vous avez d'abord les États arabes, les pays arabes, les pétromonarchies qui craignent l'instabilité. Il y a l'Arabie Saoudite, le Qatar notamment, et même Oman. Qui pousse, comment dire, Trump à ne pas y agir. Exactement. Et puis, vous avez aussi la Russie et la Chine, qui, comment dire, essayent de faire pression. La Chine, visiblement, a une grosse influence, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en fait, sur Donald Trump, par les informations que j'ai, qui me viennent des États-Unis et de sources qui sont quand même assez proches de la Maison-Blanche. Visiblement, quand même, ils s'inquiètent de la réaction chinoise également.
Donc, a priori, selon vous, les États-Unis ne vont pas intervenir par peur d'embrasement, justement. Il y a Israël qui pourrait aussi... Ça pose des difficultés de savoir que Israël, notamment, était assez proche aussi du fils du Shah d'Iran. Et parlons-en justement de cette transition, parce que la Reza Pahlavi pourrait être la solution, justement, pour une transition.
Alors, moi, en tout cas, il y a une chose que je constate, c'est que le nom de Reza Pahlavi est scandé dans de nombreuses provinces, même dans des provinces que l'on pensait à une époque séparatiste et qui montre bien qu'elle recherche l'unité. Moi, je discute avec plusieurs mouvements d'opposition. J'ai encore interviewé un chef de parti azéri il y a deux jours, mais j'ai parlé avec la direction en fait, des partis kurdes, des partis centristes aussi de iraniens. Tous sont pour l'unité, pour l'union nationale, pour un gouvernement en fait de transition. Beaucoup disent qu'ils sont prêts à s'associer en fait avec Reza Pahlavi. Vous savez, il y a une chose qui est importante. Reza Pahlavi, il correspond à 2500 ans d'histoire. En Iran, vous savez, il y a eu la monarchie pendant 2500 ans.
On qui est tombé en 1979.
Qui est tombé en 79, absolument. Mais on analyse en fait toujours la politique iranienne en France à l'aune de ce que nous sommes occidentaux. Sauf que l'Iran, c'est pas la France. Et aujourd'hui, Reza Pahlavi, il incarne aussi par son nom, qui est quand même très connu, un lien entre l'Iran et l'Occident, parce qu'il l'a dit depuis le départ, s'il prenait avec un gouvernement de transition le pouvoir, au moins pour un temps, ce serait un gouvernement laïque, démocratique, qui protégerait les minorités, mais qui amènerait tout de suite la paix avec Israël. Et avec les États-Unis. Et je voudrais le dire pour les confrères, parce que je vois quelques erreurs parfois qui peuvent être écrites dans certains journaux. Les Iraniens, je ne parle pas du régime iranien, mais la population iranienne, les jeunes notamment, ils n'ont rien contre Israël. Ils sont les premiers à dire qu'ils veulent une relation pacifiée avec Israël. C'est important quand même de le souligner.
Donc vous croyez à cette transition possible avec Reza Pahlavi qui dit d'ailleurs qu'il ne veut pas forcément prendre le pouvoir, mais qui veut mettre en place une transition.
En fait, il veut accompagner la transition démocratique.
Et vous y croyez, vous, à cette transition avec cet homme-là?
Alors, je crois que lui est capable, je l'ai interviewé à plusieurs reprises ces dernières années, il m'est apparu, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, comme un type extrêmement brillant. Il a une vision en fait pour l'Iran, évidemment, c'est son pays, mais aussi pour le Moyen-Orient. Il est entouré d'une centaine d'experts depuis quelques années qui ont travaillé sur un programme. Il discute avec d'autres mouvements d'opposition. Il ne s'agit pas que ce soit Reza Pahlavi tout seul, il le dit depuis le départ. C'est accompagner l'ensemble des mouvements démocratiques et laïques qui le souhaitent à mettre en place, je dirais, les moyens d'une transition. Mais on est en train de faire l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'en n'intervenant pas aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il faut y aller avec des avions, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut prendre des positions, il y a des criminels de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont commis en Iran, des massacres de masse, il y a des mesures à prendre, politiques, juridiques, moi je parle de ça, on ne le fait même pas.
Je voulais rappeler également ce matin sur Europe 1 que l'ayatollah Khomeini a été accueilli en France en 1978 avant de repartir, donc c'était, on en parlait, la chute de la monarchie.
À bord d'un avion Air France.
À bord d'un avion Air France. L'ayatollah Khomeini donc retourne en Iran et prend le pouvoir. Est-ce que vous pensez que la France a une responsabilité particulière vis-à-vis du peuple iranien? On a vu notamment, je crois, en Nouvelle-Zélande que l'ambassade d'Iran a été fermée. Est-ce qu'on est assez ferme en France justement avec ce passé historique qui fait un peu tâche?
Écoutez, alors, ce que disent les Iraniens souvent, c'est que les Iraniens aiment la France.
On aurait dû fermer l'ambassade d'Iran.
Je ne sais pas si on aurait dû fermer l'ambassade. Je ne suis pas légitime à dire cela. En revanche, j'ai vu un ambassadeur d'Iran, de la République islamique d'Iran, se retrouver sur le plateau de BFM, je crois, hier ou avant-hier. Ce monsieur, il est le relais d'un État qui commet des massacres de masse, qui commet en fait des crimes contre l'humanité, peut-être des crimes de guerre, puisqu'il y a des milices étrangères, Hezbollah, des milices
irakiennes,
il est accueilli à la télévision française. Vous savez, j'ai dirigé moi des rédactions, donc je suis grand reporter, je vais sur le terrain, mais j'ai aussi dirigé des rédactions.
Vous regrettez qu'on lui ait donné la parole ?
Non, je pense que le métier d'un journaliste, c'est d'aller voir en fait ce qui se passe. J'ai regretté qu'on l'invite sur le plateau, c'est-à-dire qu'on aurait pu envoyer un journaliste pour recueillir en fait son témoignage, mais on peut pas lui donner le même traitement, si vous voulez, que des spécialistes ou que des gens aujourd'hui dans les familles sont abattus. C'est horrible. Les témoignages, je le dis pour vos auditeurs, les témoignages que nous recevons d'Iran sont horribles.
D'un mot, Emmanuel Razavi, on doit vraiment conclure. Vous pensez que le peuple iranien va se soulever encore ces prochains jours et va réussir à faire tomber ce régime répressif ?
À l'heure où nous parlons, je pense que tout est ouvert. On ne peut pas dire qu'un scénario va plus fonctionner que l'autre. Je pense que si la communauté internationale ne prend pas des positions, alors je comprends la France, on a 1000 ressortissants, je crois, qui sont à Téhéran, mais on doit accompagner, en tout cas, par des mots, par des prises de position politiques, peut-être des prises de position juridiques aussi, ces jeunes Iraniens. Sinon,
mais vous y croyez, il peut tomber ce régime ces prochains jours.
Je pense que tout est réuni aujourd'hui, presque tout est réuni pour qu'il tombe, à la condition que les Occidentaux se mettent de la partie.
Ben c'est très clair. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous, spécialiste
merci
de l'Iran, co-auteur de La pieuvre de Téhéran et co-auteur aussi, vous l'êtes, du rapport sur l'infiltration iranienne en France.
Avec Jean-Marie Montali, mon co-auteur, absolument.
Merci d'avoir été
merci
avec
à
nous.
Vous.
Europe 1, il est 8h22.
Europe 1. Le journal permanent.
Avec Pierre Vesque.
Il est meilleur, il peut rassembler les mots de Sébastien Lecornu au sujet du nouveau budget. Dans cette dernière ligne droite pour trouver un compromis, le Premier ministre a dévoilé une série de mesures. Une augmentation de la prime d'activité de 50 euros en moyenne par mois pour plus de 3 millions de ménages ou encore la généralisation des repas universitaires à 1 euro. Objectif, éviter la censure en cas d'adoption du texte sans vote. Après 25 ans de négociations, l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne doit être signé aujourd'hui à Asuncion, au Paraguay. À 17h. Une majorité d'États européens a récemment soutenu le traité, malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la France. En football, petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, Égypte, Nigeria se disputeront à 3e place à 17h. Un petit mot de météo. Météo France place l'Hérault en vigilance orange aujourd'hui à partir de 18h et jusqu'à demain soir en raison d'un épisode pluvieux intense pouvant entraîner des inondations.
Merci Pierre Vesque.
Europe 1,
6h, 9h.
Alexis de la Fléchère.
Bon réveil, merci d'être avec nous. Le retour de l'info, bien sûr, à 8h30. Mais d'abord, vos balades, la gastronomie. Olivier Pouls, Vanessa Zah, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Toute l'équipe.
On va manger un os à moelle dans un instant avec Olivier. Mais d'abord, vous nous emmenez, Vanessa, au Mas de Pain. C'est l'un de vos endroits préférés pour découvrir un très bel endroit, la Camargue et ses hommes.
Ses hommes, surtout, parce qu'il faut la vivre avec ses tripes, voilà. Comme eux. Cette terre où ils travaillent, c'est une terre de liberté, de grands espaces. On en a envie de se début d'année, puis de faune sauvage, avec ses chevaux, ses flamants roses. Et oui, c'est la période pour assister à leur parade nuptiale Estelle. Les mâles séduisent les femelles grâce à leur robe rose. Plus ils le sont, plus ils ont de chance. Et il faut savoir qu'ils naissent en fait blanc-gris.
Oui, c'est moche.
Oui, c'est pas très beau, mais c'est en mangeant des crevettes chargées de pigments qu'on appelle les caroténoïdes, et bien qu'ils rosissent. Et voilà. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi en Camargue? Et ben des taureaux.
Des taureaux, exactement. Et donc au Mas de Pin, ils ont une manade de taureaux qui, eux, par contre, n'ont rien à voir avec les taureaux qu'on a en Espagne.
Non, en fait, plus petits avec les cornes en l'air. Là, il y a pas de corrida. On n'est pas dans le combat. On est vraiment dans un jeu. En fait, les rasteurs doivent attraper avec un crochet les attributs qui sont accrochés à leur frontal, donc dont une cocarde. Hein, voilà. C'est un sport. On n'est pas dans le dressage. C'est vraiment à l'instinct, ça se fait vraiment dans l'émotion et ça, on le sent dans cette manade, surtout dans les yeux de Frédéric Bon, qui est le propriétaire du Mas de Pin. Et il partage avec vous donc les coulisses de sa manade.
Ça doit être extraordinaire, vraiment.
Ouais, c'est super. Ça donne envie. Et on est vraiment sans folklore, balade à cheval ou en 4x4. Il y a des démonstrations de ferrades et puis évidemment aussi la peña en fanfare.
Ouais. Ce qui est encore mieux, Vanessa, c'est de poser ses valises au Mas, qui a été transformé en hôtel.
Exactement, par Jacques Bon. Jacques, c'était le père de Frédéric, c'est lui qui avait développé la manade de taureaux. Donc c'est une histoire de famille, de transmission, ça se sent dans ce mât, c'est un mât traditionnel camarguais, c'est-à-dire il est en U, il date de 1602, et aujourd'hui c'est un hôtel de 15 chambres, on est dans une maison de famille, on sent l'esprit camarguais, leur culture, mais aussi leur travail, parce que ce sont des éleveurs de blé et de riz. Vous savez que le riz a été planté en Camargue pour dessaler l'eau des marais, et puis ce riz on le retrouve dans notre assiette, et moi j'invite Olivier pour la côte de taureau de Camargue, riz rouge aux légumes croquants. Et ça, c'est un délice.
J'arrive. Il va pas vous dire non.
Mais il a autre chose à nous proposer
oui,
ce matin.
Oui, on va manger un os à moelle avec Olivier Pouls.
Mais vous savez pas à quel point bon. J'adore l'os à moelle. On n'y pense pas souvent. C'est un sous-produit du bœuf. L'os à moelle est vendu généralement très peu cher, voire même chez certains bouchers sympathiques.
Oui, qui nous en fait cadeau. Exactement. Eh ben c'est vrai. Ça
m'est arrivé récemment. Un indispensable du pot-au-feu ou de l'os au boucau, qui avait été interdit, bien sûr, pendant la crise de la vache folle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Vous pouvez en manger. Il est issu en général du fémur ou du tibia du bœuf ou du veau d'ailleurs. Et on le trouve souvent en tronçon, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, ou coupé en deux dans le sens de la longueur.
Moi, je préfère couper en deux, je trouve
ça c'est pour le manger tel quel, évidemment. Alors, petit conseil, vous le faites dégorger quelques heures dans de l'eau froide, que vous renouvelez deux, trois fois. Ça, c'est pour avoir une moelle plus blanche, pour enlever les petits résidus de sang. Et puis, pour la recette classique, mais très efficace et hyper simple, vous parsemez votre os à moelle d'un peu de thym séché, d'une pointe de gros sel. Ah, vous enfournez 15 à 20 minutes à 200 degrés. On termine par un tour de moulin de poivre et on sert sur une tranche de pain grillé. Et tout
oui,
simplement,
c'est pain de campagne,
pur bonheur. Et puis là, je l'ai associé plus récemment, recette originale, à des Saint-Jacques, un terre-mer, des petites Saint-Jacques. Alors, des Saint-Jacques coupés en rondelles un peu épaisses, soit une petite rosace. À côté, vous faites votre os à moelle et vous venez poser au dernier moment la moelle qui est évidemment chaude sur les Saint-Jacques qui sont tièdes.
Magnifique.
On arrose avec un petit peu de gras qu'on a récupéré de cette os à moelle, c'est une merveille. Et puis en Italie, on l'utilise aussi pour le risotto à la milanaise, évidemment.
Bel accent.
Et on fait fondre la moelle dès le début dans du beurre. Ensuite, on ajoute l'échalote, on fait revenir le riz arborio carnaroli pour le rendre translucide. On mouille avec le vin blanc et puis le bouillon. Et on termine au beurre froid, parmesan et safran.
Oh là magnifique. Là, on a l'eau à la bouche.
Voilà, trois recettes pour un os à moelle.
Merci Olivier, merci Vanessa, à demain.
Restez bien avec nous, le journal de 8h30 arrive dans un instant.
On va revenir bien sûr sur les annonces hier soir de Sébastien Lecornu qui veut à tout prix sauver le budget 2026. Il donne de plus en plus de gages au Parti Socialiste. Et puis l'édito d'Alexandre Devecchio arrive également, journaliste au Figaro. Elliot Deval sera également dans ce studio pour nous donner le programme de son émission. Elliot Deval et vous, 11h-13h, à tout de suite.
Europe 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199€ par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
IKEA.
Tu peux me sortir le turbo du four?
Prêt à partir en salle, chef?
Mais qu'est-ce qui te prend?
On dresse l'assiette, chef, et on envoie, chef!
Jusqu'au 15 février chez IKEA, pour l'achat d'une cuisine méthode de 2 000€ minimum, recevez 10% de sa valeur en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Hors électroménager et services éventuels, voire conditions sur IKEA.fr.
Chez Maxizo, le bonheur d'un chien commence par un couchage à prix tout doux. Offrez-lui son cocon de confort avec le coussin en velours côtelé Fit and Fun taille S à seulement 7,99€. Rose ou beige, réversible, moelleux et facile à entretenir.
c'est l'accessoire parfait pour des siestes réparatrices et après-midi. Chez Maxizo, offrez-lui tout ce qu'il aime, moins cher. Maxizo, élu marque préférée des Français, catégorie animalerie.
La reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6000 euros d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1000 euros de prime reprise déduite et 5000 euros de remise. Offre particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Mais peut-on trouver plus de 3 millions d'euros carte U mise en jeu?
Oh, mais non, 50 euros, j'ai gagné 50 euros carte U. Bon, ben, c'est pour moi, hein. Prenez ce que vous voulez.
Vous avez de la chance, vous. Bon, je prendrai bien des gâteaux. Et pour jouer, rendez-vous du 6 au 25 janvier pour obtenir un ticket à gratter et tenter de gagner des lots de 2, 5 et 50 euros carte U. Dans vos magasins U et sur Course U.
Jeu avec obligation d'achat réservé aux clients carte U des 30 euros d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire. Montant total des dotations mises en jeu dans les magasins U participants. Conditions et règlements sur magasin-u.com.
Europe 1 Matin Week-end.
6h-9h.
Alexis de la Fléchère.
Bienvenue dans Europe 1 Matin Week-end. Nous sommes le samedi 17 janvier et à la une, prime d'activité en hausse, 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, soutien aux étudiants. Sébastien Lecornu a dessiné hier les contours de son nouveau projet de budget 2026. Le Premier ministre a fait de nombreuses concessions au Parti Socialiste, notamment. Nouvelle tentative de déblocage dans le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a reçu les représentants politiques de l'archipel. Objectif, entamer un nouveau cycle de discussions. Et puis, pourquoi Donald Trump n'est-il pas encore intervenu en Iran alors qu'il a multiplié les menaces contre le régime des Mollahs? Éléments de réponse à suivre. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Estelle Lafont.
On a pas mal de ciel couvert aujourd'hui et toujours cet épisode particulièrement pluvieux dans le sud-est qui se poursuit. Je vous donne plus de détails à la fin du journal.
Europe 1. Le journal de 8h30 sur Europe 1, présenté par Alexis Bourdon. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Il est meilleur et il peut rassembler les mots de Sébastien Lecornu au sujet du nouveau budget 2026. Alors que le texte pourrait être adopté par 49.3 ou par ordonnance, le Premier ministre tente le tout pour le tout avec une série de mesures. Objectif, trouver un compromis avec le Parti Socialiste qui devrait lui éviter la censure, Barthélémy Philippe.
Oui, le Premier ministre a promis de tenir l'objectif d'un déficit public à 5% du PIB maximum fin 2026. Et pourtant, en dehors des baisses de crédit pour les ministères, qui épargnent d'ailleurs les armées, l'intérieur, la justice et l'éducation nationale, il a annoncé de nouvelles dépenses publiques, avec d'abord un coup de pouce pour les ménages payés au SMIC, ou juste au-dessus.
Plus de 3 millions de ménages seront désormais garantis de gagner plus à la fin du mois. Ils verront leur prime d'activité augmenter en moyenne de 50 euros par mois. Le gouvernement s'y engage.
Le Premier ministre a par ailleurs confirmé la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Il a annoncé la création de 2000 postes dans l'éducation nationale, le maintien de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, la généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants à partir du mois de mai. Enfin, face à la crise du logement, Sébastien Lecornu a promis une rallonge de 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, ainsi que la relance du dispositif MaPrimeRénov' dès l'adoption du budget.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Du côté des Républicains, malgré un texte qui penche à gauche, on pourrait ne pas appeler à la censure. C'est ce que confiait hier soir sur Europe 1 Julien Aubert, vice-président des LR. L'élu souhaite éviter une nouvelle crise politique en France.
Si Sébastien Lecornu tente de trouver un budget à la France, Emmanuel Macron, lui, s'occupe de la question de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.
Le chef de l'État a reçu hier à l'Élysée les formations politiques de l'archipel, une rencontre qui s'est faite sans le Front de Libération Nationale Kalak et Socialiste, le FLNKS. Objectif pour Emmanuel Macron, apporter des clarifications sur l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier. Ce texte prévoit notamment la création d'un État calédonien au sein de la République française, doté d'une nationalité propre et qui pourrait être reconnu internationalement. Pour Jean-Jacques Brault, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, l'avenir de l'archipel pourrait être l'un des enjeux de la prochaine présidentielle.
Compte tenu des calendriers des élections nationales et des futures élections provinciales, il est bon malgré tout que même si cette réunion, à mon sens, ne débouchera pas sur un accord formel, mais permettra au moins des échanges. Et aussi, une chose très importante, c'est que l'opinion publique de France métropolitaine, à Paris, le Parlement, les deux assemblées, le monde de l'université, le monde des médias, entendent parler de Nouvelle-Calédonie. Le gros problème, c'est que c'est un sujet dont on ne reparle que par intermittence, alors que c'est pour la France à la fois un espoir extraordinaire dans cette région géopolitique qu'est le Pacifique, un devoir de solidarité et de fraternité à l'égard de nos compatriotes, plus de 260 000 qui vivent dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie, et que, je vous fiche mon billet, que ce sera un des points cruciaux de l'échéance présidentielle de 2027.
Jean-Jacques Brault, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, au micro de Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Dans l'actualité également, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur doit être signé aujourd'hui.
Après 25 ans de débats, Ursula von der Leyen est attendue aujourd'hui à Asunción au Paraguay pour signer le traité. Cet accord va créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. En France, le texte a longtemps été décrié par le gouvernement, mais aussi par les agriculteurs. Une partie du monde paysan redoute l'importation de marchandises sud-américaines qui ne respectent pas les normes françaises.
Après plusieurs semaines de menaces, Donald Trump a remercié l'Iran.
Le locataire de la Maison-Blanche a dit merci au régime des Mollahs d'avoir annulé toutes les pendaisons prévues de manifestants. Plus tôt dans la semaine, Donald Trump avait menacé Téhéran de sérieuses conséquences si la répression venait à continuer. Menaces qui n'ont pas été mises à exécution. En coulisses, Wilfried de Villers, les pays du Golfe sont à la manœuvre pour dissuader le président américain d'intervenir en Iran alors qu'ils craignent un embrasement régional.
Oui, en milieu de semaine encore, les frappes en Iran semblaient certaines. Les bases américaines de la région étaient en état d'alerte, prêtes à une intervention. Finalement, rien, pas de frappe et d'intenses tractations diplomatiques pour convaincre Donald Trump de temporiser. Il faut dire que l'Arabie Saoudite et le Qatar, alliés de Washington, redoutent en particulier une riposte militaire de l'Iran, comme le détaille le chercheur David Rigoulet-Rose.
Les autorités iraniennes ont fait valoir que le type de réplique qui serait envisagée serait illimité. Donc elle viserait évidemment des bases américaines, notamment celles au Qatar et ailleurs, mais potentiellement elle pourrait être élargie à ceux qui sont présentés comme les alliés des États-Unis dans la région.
Et pour cause, les pays du Golfe sont à portée de missiles iraniens capables de frapper leurs infrastructures stratégiques, centrales électriques, usines de désalinisation et surtout installations pétrolières. La crainte d'une crise du pétrole qui pourrait entraîner une paralysie du détroit d'Ormuz, passage stratégique entre Oman et l'Iran. Enfin, Israël aurait demandé à Donald Trump de temporiser pour se préparer à une éventuelle riposte iranienne.
Wilfried de Villers pour Europe 1.
Merci beaucoup Alexis Bourdon. C'était votre journal. Il est 8h36. La météo avec Estelle Lafon. C'est un temps, Estelle, un peu plus clair sur les côtes, mais assez gris quand même, il faut le dire, sur l'ensemble du territoire.
Oui, c'est plus clair le long de la Manche. Il y aura des belles trouées de soleil ce matin. On a encore quelques brouillards côtiers sur la côte d'Opale et dans les terres du Nord, mais ça va se lever. Tout le long de l'Atlantique aussi, jusqu'au bassin d'Arcachon, pareil, des percées de soleil malgré un risque d'averse, notamment vers la Charente-Maritime. Et puis on a une belle journée sur une petite parenthèse, on peut appeler ça, entre les Ardennes et le sud des Vosges, avec une matinée qui démarre sous un soleil un tout petit peu voilé. Partout ailleurs, eh bien, ça va du gris clair au gris foncé, et même sous la pluie. Alors, pas forcément très dru sur le sud-ouest et autour de l'Auvergne, mais on a des pluies très marquées sur la région PACA, spécifiquement du côté des Cévennes ce matin, avec l'Hérault, le département de l'Hérault, qui sera placé dès ce soir à 18h en vigilance orange pour pluie et inondation.
Et cet après-midi, le changement n'est pas très notable niveau température.
Non, exactement, elle stagne par rapport à hier. Vous comptez ce matin au réveil 3 degrés à Quimper, à Strasbourg, vous avez 5 à Montluçon, comme à Aurillac et Orléans, 6 degrés pour Rennes, Châteauroux et Saint-Étienne, 7 à 3 à Toulouse et Bordeaux, 8 à Lons-le-Saunier et Mont-de-Marsan, 10 à Montpellier, 11 à Nice et 13 à Toulon.
Merci Estelle. Il est 8h38, tout pile, sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro Magazine. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexis, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Vous avez voulu revenir ce matin sur une information démentie par le gouvernement, la création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas qu'aurait souhaité Emmanuel Macron. Une information relayée par l'opinion avant que le ministère des Affaires étrangères ne démente quelques jours plus tard. Était-ce, Alexandre, une fake news ?
C'est ce que prétend aujourd'hui Jean-Noël Barrot, mais cela ressemble davantage à un ballon d'essai qui a fait pchit. D'abord parce que l'information a été relayée par l'Opinion, un journal sérieux et renseigné que l'on peut difficilement taxer d'antimacronisme. Ensuite parce qu'Emmanuel Macron a lui-même semé le doute. On veut mobiliser nos diasporas encore davantage, a déclaré le président de la République lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices le 8 janvier. Enfin, car ce n'est qu'après plusieurs jours de silence radio que Jean-Noël Barrot a nié l'existence de ce projet. S'il s'agissait d'une rumeur et non d'une information, comme l'affirme aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, il aurait été simple de la tuer dans l'œuf en faisant immédiatement un communiqué pour démentir. En vérité, il s'agit plus probablement d'un rétropédalage de l'Élysée qui, devant le tollé, s'est finalement rendu compte que c'était une très mauvaise idée.
Alors pourquoi était-ce une mauvaise idée selon vous, Alexandre ?
Parce que dans une France archipélisée, un tel projet ne pourrait que renforcer les fractures françaises. La République est censée être une et indivisible. Elle ne distingue pas les citoyens selon leur origine ou leur couleur de peau. La création d'un tel commissariat aurait signifié une remise en cause de ce principe fondamental. Mais en vérité, celui-ci est déjà malmené depuis au moins les années 80. Au nom d'un antiracisme dévoyé et par fascination des élites pour le modèle multiculturaliste anglo-saxon, la France a peu à peu renoncé à son modèle d'assimilation, exaltant la France black-blanc-beurre et les identités particulières. Nous aurions voulu encourager le communautarisme, nous ne nous y serions pas pris autrement. Macron a toujours été très ambigu sur cette question. Lors de sa première campagne en 2017, lors d'un meeting à Marseille, il s'était adressé, selon ses propres mots, aux Arméniens, aux Comoriens, aux Italiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Maliens, etc. Avec l'idée d'un haut commissariat à la diversité, Macron renouait avec cette vision éclatée de la société française.
Alors plutôt qu'un haut commissariat à la diversité, il faudrait selon vous créer un haut commissariat à l'assimilation.
Oui, ce serait une manière de renouer symboliquement avec notre modèle traditionnel. Et à l'heure où tant de jeunes sont tentés par le communautarisme et tiraillés entre leur appartenance à la France et leur pays d'origine, ce serait un moyen de leur donner des modèles d'identification. On pourrait proposer à Luis Fernandez d'entrer dans ce haut comité. Pas plus tard qu'hier, lors du bicentenaire du Figaro, le héros de l'Euro 84, d'origine espagnole, a entonné spontanément une Marseillaise avec nos lecteurs pour rappeler son amour du drapeau. Dans ce haut commissariat, il pourrait aussi y avoir le prix Goncourt, Kamel Daoud et bien sûr Boualem Sansal, qui quelques jours avant son embastillement, alors qu'il venait d'être naturalisé, déclarait « Depuis ce printemps, je suis français à part entière et chaque matin, je découvre que je suis plus heureux et plus libre que la veille. »
Bon, voilà des beaux exemples d'assimilation.
Oui, tout à fait.
Merci Alexandre Devecchio.
Merci à vous, Alexis.
Journaliste au Figaro. À bientôt, on vous réinvitera aussi, Alexandre, pour parler de votre livre qui fonctionne très bien. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. C'est aux éditions Fayard. Vous viendrez nous en parler avec plaisir. J'ai pensé d'ailleurs à Gérard Collomb, cette phrase de l'ancien maire de Lyon, ministre de l'Intérieur, qui disait... On vit côte à côte, mais moi je crains que demain on ne vive face à face. Ça fait un peu allusion à ça aussi.
Oui, ça fait tout à fait allusion à ça. Hélas, on se rapproche chaque jour un peu plus du face à face, mais c'est aussi un livre d'espérance pour éviter ce face à face.
Et ben vous viendrez nous en parler avec grand plaisir,
avec
Alexandre.
Plaisir,
Devecchio. Restez bien avec nous sur Europe 1. Eliott Deval va venir nous donner le programme de son émission. Eliott Deval et vous, qui est de 11h à 13h sur Europe 1. Et puis il y aura aussi
Naïma Benchema,
drôle d'endroit pour une rencontre, qui reçoit Joyce Jonathan.
Voilà,
beau programme. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Bonjour, c'est Stéphanie Demuru. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Ouvrir le micro à toutes les opinions. Stéphanie Demuru, Europe 1 soir week-end, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h. Europe 1. La radio libre.
Grand frais.
Oui, c'est le guide de haute montagne. Dites, pour l'ascension du sommet, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un yaourt grec 0% ultra onctueux, un régal. Bon, après c'est simple, hein, dès que vous pouvez plus monter, bah c'est que vous y êtes.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à lundi, le pot de 500 grammes de yaourt grec 0% de matière grasse est à 1,99€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Soit 3,98€ le kilo, fabriqué en Grèce. Pour votre santé, bougez plus.
Lexus.
On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pensez à covoiturer.
Mesdames, messieurs, silence s'il vous plaît. L'abonnement à l'équipe Plus Eurosport est à 5,99 € par mois. Toute l'expertise de l'équipe et les chaînes Eurosport réunies au même endroit. Merci. Pour 5,99 € par mois, vivez le sport avec l'équipe. Avant, pendant et après les plus grands événements de l'année diffusés sur Eurosport. Offre valable du 5 au 17 janvier, avec engagement 1 an. Toutes les conditions sur le site et l'application L'Équipe.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 € par mois avec 5 740 € de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 €, prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche Harris?
Tout à fait. Moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais,
Faites plaisir à tous les gourmands. Car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées Harris pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
IKEA.
Tu peux me sortir le turbo du four?
Chant. Prêt à partir en salle, chef?
Mais qu'est-ce qui te prend?
On dresse l'assiette, chef, et on envoie, chef.
Jusqu'au 15 février chez IKEA, pour l'achat d'une cuisine méthode de 2 000 € minimum, recevez 10% de sa valeur en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Hors électroménager et services éventuels, voire conditions sur IKEA.fr.
Europe 1 Matin Week-end.
Dans moins d'une minute sur Europe 1, Elliott Deval sera avec nous en studio pour nous présenter le programme d'Elliott Deval et vous de 11h à 13h. À tout de suite.
Europe 1. On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 € pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G 120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h, Alexis de la Fléchère.
8h46, merci si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Il est en studio avec nous pour nous présenter le programme de son émission tout à l'heure, Elliott Deval.
Bonjour Elliott, un plaisir de vous avoir dans la matinale week-end pour avoir le programme justement d'Elliott Deval. Et vous, votre émission tout à l'heure de 11h à 13h, vous allez parler de quoi?
En pleine émission, l'accord du Mercosur sera signé par Madame von der Leyen au Paraguay. Cet accord contre nature, cet accord qui a été refusé par la France, le nom de l'exécutif. Oui. Vous savez que l'exécutif se cache derrière ce nom. Or, ce nom symbolise tant de faillites et surtout tant d'impuissance, puisque quand la France dit non et que Madame von der Leyen et l'Union européenne le veut, eh bien, la France doit écouter sagement ce qui va se passer. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'Union européenne a aujourd'hui trop de pouvoir? Est-ce que le droit européen prime sur tout? Est-ce que les traités priment sur la politique nationale, que ce soit la politique agricole, la politique migratoire ou encore le commerce extérieur? Voilà, et puis on parlera aussi des armées, puisque visiblement l'Union européenne voudrait contrôler les transferts entre pays européens d'exportation d'armes. Est-ce que demain, si l'Allemagne veut acheter des Rafales, il faudra demander à l'Union européenne La question se posera dans notre émission.
Et ben voilà un programme chargé, mais qui va passionner évidemment les auditeurs d'Europe 1 qui peuvent joindre Elliot avec
tout
un numéro.
Tout à fait,
Estelle,
qui peuvent réagir en direct à l'émission 01 80 20 39 21. Merci Elliot, on vous retrouve tout à l'heure 11h-13h, 8h48 sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
Présenté par Alexis Bourdon.
Prime d'activité en hausse, 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, soutien aux étudiants. Sébastien Lecornu a dessiné les contours de son nouveau projet de budget 2026. Le Premier ministre a fait de nombreuses concessions au PS pour éviter la censure en cas d'adoption du texte sans vote à l'Assemblée nationale. Après 25 ans de débats, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur doit être signé aujourd'hui. Ursula von der Leyen est attendue au Paraguay pour paraffer le traité. En France, le texte continue d'être décrié par le gouvernement, mais aussi par les agriculteurs. Donald Trump a dévoilé une liste de membres du Conseil de la paix pour Gaza, conseil qu'il présidera et auquel siégeront le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
Merci Alexis.
Europe 1 Matin Week-end.
Drôle d'endroit pour une rencontre tous les week-ends. À cette heure-ci, Naïma Bencheman échange avec un invité. Cette semaine, Naïma, elle est allée interviewer Joyce Jonathan, la chanteuse pétillante qui s'apprête à sortir un nouvel album d'inspiration chinoise. Et c'est assez logique d'ailleurs à la lecture de son parcours. Naïma est allée rencontrer Joyce Jonathan à Paris, au centre du Marais. C'est à vous, Naïma.
Je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée.
Joy Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ça fait plus de 15 ans que vous avez conquis le cœur du public français avec des tubes comme « Je ne sais pas »,« Ça ira »,« Pas besoin de toi ». Vous allez revenir avec un nouvel album. Il y a déjà un extrait qui vient de sortir qui s'appelle « Comme d'hab, on va en parler dans ce drôle d'endroit pour une rencontre.
Avec plaisir.
Vous avez fait le choix de me donner rendez-vous au Centre Marais à Paris. Un centre où on enseigne la danse et où on enseigne le chant aussi, Joy Jonathan.
Exactement.
Pourquoi ici, pour vous, c'est le parfum de vos débuts?
Exactement, c'est toute mon enfance ici au Centre du Marais. Donc on peut apprendre à danser, à chanter, à s'exprimer sur scène. C'est vraiment l'école de l'expression corporelle, musicale. Et en fait, depuis petite, je sais que je veux être chanteuse. Je peux hésiter entre des scratchs ou des lacets sur mes baskets, mais par contre, la musique, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire. J'en ai parlé à l'une de mes sœurs, qui s'appelle Sarah, la cadette et la sœurette. Elle m'a dit, mais t'inquiète, mais c'est pas grave que t'aies envie d'être chanteuse. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans. Et elle m'a dit, mais prends des cours de chant, si comme ça tu pourras encore plus apprendre, le partager avec d'autres personnes qui aiment ça, et un prof. Et donc, c'est elle qui m'a parlé du Centre du Marais. Et là, c'était la révélation, c'était mon refuge.
Pourquoi je tombe amoureuse quand il faut pas? Comme d'hab, oui, je fais l'amour le premier soir. Comme d'hab, je dis je t'aime au premier regard.
Il y a un nouveau single qui est sorti, comme d'hab, qui annonce un nouvel album. Si vous deviez décrire la couleur de ce prochain album, en tout cas, on en a un aperçu avec le single, il est plutôt un peu plus sauvage, on va dire, si on devait choisir un adjectif, un peu comme votre chemise.
Voilà, exactement. Maintenant, je ne suis que sauvage à l'intérieur et à l'extérieur.
C'est totalement assumé. On ne cache plus rien.
Et dans comme d'hab, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus franc, où je me dis... Enfin, c'est vraiment, c'est ma vie que je raconte dans cette chanson, très assumée, de me dire que quand je tombe amoureuse, j'ai toujours l'impression que c'est comme la première fois. Et en même temps, je me rends compte à la fin que je suis allée trop loin, je suis très guidée par ma passion. Après, ça reste ma nature, je pense qu'on ne peut pas changer, comme dirait Céline Dion. On ne change pas, on
met juste des mots d'autres sur soi. Ouais.
Plus on grandit, plus on sait ce qui nous correspond, ce qui nous va et ce qui nous fait du bien.
Comme maman, elle avait fondé une agence de voyage avec la Chine. Et vous, ça fait 3 ans que vous avez un succès absolument phénoménal en Chine. Racontez-nous ce concours qui vous a permis de devenir une star intergalactique en Chine.
C'était pour moi très fun de chanter en chinois parce que c'est le langage que mes parents parlent, que l'une de mes sœurs parle couramment aussi. En sortant mon premier album en Chine il y a 15 ans, j'ai eu une petite notoriété qui s'est construite, j'ai rencontré un public chinois. Puis j'y suis allée tous les ans faire des tournées et il y a un un an et demi, on m'a proposé de participer à l'équivalent de la Star Academy chinoise qui s'appelle Changfang.
J'ose pas le dire depuis le début, je vais vous laisser. Et qui a remporté ce concours?
Et donc j'ai remporté le concours. Donc c'était fou. À partir du moment où j'ai fait cette émission, c'est vrai que ma notoriété a complètement changé puisque c'est le premier télécrochet de Chine et les chiffres sont hallucinants en termes de téléspectateurs parce que c'est à la fois diffusé en temps réel mais aussi en streaming dans toute l'Asie. Donc c'est 13 milliards de vues par saison. Donc c'est vraiment très très regardé. Le goût de jeune mère, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Moi, quand j'étais petite, c'est ma maman qui allait en Chine. Et aujourd'hui, c'est moi la maman qui vais en Chine et qui dit à ma mère, à ma fille et à ma mère d'ailleurs, je suis en Chine.
Elle est fière de vous, votre maman, justement, de voir que quelque part, vous avez un petit peu marché sur ses traces dans votre propre domaine, mais que vous avez eu le même succès qu'elle avait eu dans le sien.
Ouais, franchement, elle est très fière et très contente. Et d'ailleurs, je l'ai emmenée sur la dernière tournée. Donc elle a fait toutes les villes avec moi, on a vraiment partagé la tournée ensemble.
Ça devait être beau cette communion.
Ah, c'était génial. Et puis ma mère c'est vraiment un personnage, donc tout le monde était fan de ma mère. Donc c'était très sympa. C'est vrai que dans le prochain album, c'est ce que je veux aussi traduire. Par exemple, la pochette de l'album a été shootée, et la pochette du single, donc comme d'hab, a été shootée par une photographe chinoise qui est très connue en Chine, s'appelle Luo Yang. Et elle est venue spécialement de Shanghai pour qu'on fasse le shooting à Paris, à l'aéroport de Paris. On a voulu raconter le voyage entre la France et la Chine. Et il y aura aussi des collaborations avec des artistes chinois. Et ça, j'ai hâte de le partager. Donc l'album sortira là, courant 2026.
Merci.
Jonathan,
de ce drôle d'endroit pour une rencontre. Vous me faites songer à cette phrase de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre-toi sur le moment présent. Infini merci, Joy Jonathan.
Merci beaucoup. Il y a une phrase d'ailleurs dans Le Petit Prince qui me bouleverse et qui est très connue en Chine et quasiment... tous mes fans chinois, à la fin des concerts, ils me remettaient des petites cartes postales avec cette phrase. C'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et cette phrase, je la trouve bouleversante. Parce que je trouve que la musique, c'est ça. C'est voir avec le cœur. Et voilà.
Eh ben merci beaucoup, merci. Jonathan. Vous pouvez me dire merci en chinois maintenant ?
Xie xie ni.
Merci beaucoup Naïma. Et demain, Naïma, on la retrouvera aussi dans Drôle d'endroit pour une rencontre à peu près à 9h moins 10.
Oui, elle reçoit Faudel demain, Naïma Benchemann.
Très bien, ce sera avec grand plaisir, donc à 8h, 9h moins 10, je vais y arriver. Chaque samedi de 13h à 14h, n'oubliez pas que sur CNews et Europe 1, Laurence Ferrari interroge Michel Onfray pendant une heure face à Michel Onfray. Écoutez, chaque samedi, 13h, 14h sur Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe 1, le journal de 9h arrive. Mais d'abord, Frédéric Taddeï, bonjour.
Bonjour Alexis.
Les auditeurs d'Europe 1, Frédéric vous retrouve juste après Europe 1 Matin Week-end, après 9h, pour C'est arrivé cette semaine, votre émission, le programme du jour.
Les visées de Donald Trump sur le Groenland et ses menaces contre l'Iran, avec Mathieu Bock-Côté. La pénurie d'œufs, on a des difficultés à en trouver dans les supermarchés. On va voir ça avec Alice Richard, la directrice de l'interprofession française des œufs. Et une nouvelle cartographie électorale de la France, tirée des résultats des dernières élections avec Youssef Souidi.
Merci Frédéric, on vous retrouve juste après le journal de 9h.
Europe 1, Lidl, ça vaut le coup. Les émincés de porc origine France à 3,19€ au lieu de 3,99€, à mijoter à votre sauce, ça vaut délicieusement le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les émincés de porc origine France sont à 3,19€ au lieu de 3,99€, moins 20%. Lidl, ça vaut le coup. 400 grammes, 7,98€ le kilo avec Lidl Plus, 9,98€ le kilo sans. Origine France, offre valable jusqu'au 21 janvier.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. Le lave-linge Indesit 8 kg, 1400 tours, 5 cycles rapides, est à 299,99€ au lieu de 399,99€. 60€ d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Soldes du 7 janvier au 3 février.
MDA, électroménager, literie, cuisine, des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie.
L'Espace Topair vous propose les plus grandes marques de literie. Bultex, Trika, Simons, Tempur, Emma, Epeda, André Renault. Dans le plus grand espace literie à Paris et à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ?
Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Renault. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Skoda.
On peut décider de reprendre le